Vous allez écouter les fictions fantastiques des 4e 1 du Collège Nantes-Centre, accompagnées par leur enseignante Juliette Mersan, prise de son et montage Damien Fourcault.
Le dernier souhait. Je me rappelle, c'était il y a 2 ans. Mes amis Gonzalo et Miguel, des jumeaux, et moi, Gabriel. Nous étions rendus dans une maison d'étranté. Nous avions vu sur TikTok. Nous étions entrés syriens, car ce n'est pas notre première urbex. À l'intérieur, nous avons vu des choses étranges. Les tableaux bougeant alors qu'il n'avait aucun souffle de vent. Le parquet grinçait, pourtant, nous étions seuls. D'un coup, j'entendis un grand bruit.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est Gonzalo, il a fait tomber un truc.
Miguel et moi regardons ce tableau cassé par terre, des bouts de verre étant éparpillés sur le sol. Vers 22h, nous sommes rentrés chez nous avec une étrange impression.
Cette nuit-là, je m'étais réveillée au milieu de la nuit, respirant très fort dans un lit visiblement mouillé par ma transpiration. Ce qui était inhabituel, étant donné que nous étions en hiver. Mais je ne m'étais pas alarmée. Je m'étais donc rendue dans la cuisine pour y boire un verre d'eau. Cependant, lorsque j'y allais, les lumières de la maison se mirent à clignoter sans cesse, au rythme de la terreur. C'est en arrivant, au niveau de mes placards, que j'ai remarqué que l'une de mes bouteilles d'eau avait disparu. Il n'en restait plus que 3. Alors que normalement, j'en avais acheté 4. Mais, assommée par le sommeil, je n'y ai pas prêté plus d'importance que ça. Et je me suis dépêchée de retourner dans ma chambre.
Le lendemain, plus conscient que la veille, je constatais en effet la disparition inexpliquée d'une des bouteilles, ce qui était surprenant vu que j'habitais tout seul. Je me suis alors précipitée dans les autres pièces de la maison pour vérifier que tout était à sa place, quand j'ai aperçu, écrit avec des lettres sanglantes sur mon miroir,
« Gabriel, toi et tes amis, vous m'avez perturbé. Je ferai le double. »
J'étais tétanisée. J'étais devenue pâle, aussi blanc que la neige qui tombait dehors. J'ai couru alors dans ma chambre pour me cacher sous mon lit. J'ai ressenti une forte douleur au niveau de mon bras gauche, et quand j'ai regardé, j'ai aperçu des morceaux de verre brisés par terre, des morceaux bien familiers. C'était le tableau que Gonzalo avait cassé lors de notre visite dans la maison abandonnée. J'étais stupéfait, je ne savais pas quoi faire. J'ai alors appelé les jumeaux.
Hey, les mecs, ça va sûrement vous sembler étrange, mais je rigole absolument pas. Quelque chose ou quelqu'un, je n'en sais rien, me dérange depuis qu'on a visité la maison de TikTok. Je pense que c'était pas une bonne idée.
Écoute mon pote, je pense que t'as trop bu. Je te fais des idées.
Mais, les gars...
Les avais-je interpellés en vain, car ils avaient raccroché. Frustré, je me mis à pleurer et prier vainement. C'est là que j'entendis.
Je ne vous pardonnerai jamais. Toi, tu es ma première cible, et j'en finirai avec tes idiots d'amis.
Cette voix grave avait résonné dans ma chambre. En même temps, la porte avait claqué. Les fenêtres s'étaient ouvertes et refermées violemment. Divers objets étaient tombés dans un bruit assourdissant. J'avais perdu la notion du temps et de l'espace. Je ne me souviens pas de la suite, le trou noir. Et mes voisins ont juré m'avoir entendu hurler.
Par pitié, pardonne-moi, ne me tue pas!
Et avoir vu une silhouette sombre s'éloigner de la maison, sans jamais pouvoir en distinguer les traits.
Depuis ce jour, rien n'est pareil. Chaque fait me semble bizarre. Je sens une présence constante à mes côtés. Je n'ai plus eu aucun contact avec les jumeaux, malgré mes appels. Tous les jours, lorsque je sors de ma maison, j'entends la même voix qui me dit
« Ne perturbe pas les autres si tu ne veux pas qu'ils te perturbent. »
Mais quand je regarde autour de moi, il n'y a jamais personne.
Voilà ce qui m'arrive depuis 2 ans et qui m'a amené dans votre cabinet. Docteur, pouvez-vous m'aider?
Avec ce que vous m'avez raconté, j'en déduis que vous êtes sans doute atteint de schizophrénie ou de paranoïa. Pour les jumeaux, je vous conseillerais d'établir un contact avec leur famille. Pour le reste, je pourrais vous aider petit à petit. La prochaine séance sera mercredi prochain. Ça fera 45€, en espèces ou par carte.
En sortant du cabinet du psychologue, je repensais à ces derniers mots. Mais j'avais du mal à y croire, car oui, les bouts de verre étaient bien réels et je les avais cachés au fond d'un tiroir fermé à triple tour. Plus tard, en suivant les conseils de mon psy, j'ai appris que les jumeaux s'étaient suicidés pour des raisons inconnues.
Kevin.
Ariel.
Rosalie.
Elias.
Aljana.
La Grange.
Je m'appelle Joseph, j'ai 14 ans et je viens de Paris. J'ai fait 6 heures de voiture et je viens d'arriver à Mons, chez mon grand-père, que je n'ai rencontré que quelques fois étant enfant. J'aurais préféré rester à Paris, car je sens que de longues heures d'ennui m'attendent dans ce village. J'ai pas du tout envie d'y rester une semaine. En rentrant chez mon grand-père, j'ai trouvé la maison rustique, à son image. La maison est exiguë. À l'étage, il y a la chambre de mon grand-père. Mais aussi la mienne. La salle de bain est petite, mais il y a quand même une fenêtre par laquelle j'ai aperçu une grange. Elle est plantée là, au milieu de nulle part. Aucune bâtisse aux alentours. Même pas un champ cultivé. Que des terres à l'abandon. Après m'être installé, je descends dans la cuisine et demande à mon grand-père.
Le voisin a une grange? Sinon, il n'y a pas de champ cultivé dans le coin?
Non, il n'y a personne. Rien. Mais ne t'inquiète pas.
Comment ça? Tu ne trouves pas ça étrange, toi?
Bah, c'est comme ça.
Comment ça, c'est comme ça?
J'aime pas trop parler de cette histoire. Faut pas déterrer le passé comme ça, tu sais. En fait, il y a quelques années de cela, un premier meurtre s'est produit, puis trois ont suivi. À chaque fois, les corps ont été retrouvés, mutilés, pendus ou découpés. Malheureusement, l'enquête n'a jamais abouti. On n'a pas réussi à trouver l'auteur des actes barbares.
J'étais choquée, mais j'ai essayé de masquer mon trouble. Je suis allée me coucher, très intriguée par cette histoire sordide. Je décidai d'attendre que mon grand-père s'endorme pour me lever et sortir découvrir la fameuse grange. J'étais soucieuse de ce que j'allais y trouver, mais une sorte de curiosité malsaine m'est poussée malgré tout. C'était plus fort que moi. J'avançais dans la nuit vers la grange.
Il commençait à faire froid, quand soudain le pluie s'abattit sur moi. Le tonnerre gronda et des éclairs illuminaient le ciel. Un cri sinistre retentit. Il me fit froid dans le dos. À la porte de la grange, j'ai m'arrêté. J'hésitais, mais j'ai décidé tous de même d'entrer. L'atmosphère était pesante et la paille craquait sous mes pieds. La grange grinçait sous le feu du vent. Brutalement, une installation en bois s'écroula après une bourrasque, faisant beaucoup trop de bruit à mon goût. Je me retournai vivement et c'est alors que je vis un cadavre pendu dans un coin de la grange. Je m'approchai de lui, horrifié, le souffle coupé par ses visions d'horreur.
Soudain, j'entendis la porte grincer sur ses gonds. Pourtant, personne n'était là pour la faire bouger. Je courus me cacher derrière une botte de foin. Une dizaine de secondes plus tard, une créature flottant au-dessus du sol apparut. Elle portait une longue cape noire. Je n'arrivais pas à distinguer son visage à cause de sa capuche, mais je sentais néanmoins en son âme une terrible noirceur.
Elle tenait un couteau à la main. Sur sa lame se reflétaient tous les assassinats commis avec cette arme. Je tremblais tellement de peur depuis ma cachette que ma lampe de poche tomba et s'alluma toute seule dans sa chute. La créature s'approcha de moi, cela m'affola. Je me dirigeai alors vers la sortie de la grange, en courant. La créature me poursuivit et s'interposa entre moi et la sortie. J'allais dans le sens inverse,
lorsqu'elle m'attrapa par la capuche de mon sweat et me plaqua violemment au sol. Le désespoir me prit alors. Je sentais ma fin arriver. Un rire sinistre retentit juste au-dessus de moi. Je ne pouvais résister face à cet être pourvu d'une force spectaculaire et maléfique.
Je sentis ensuite un coup de couteau transpercer ma manche et entailler mon avant-bras. Je criais de peur et de douleur et m'évanouis après avoir été assommée. Je ne sais pas comment, quelques heures plus tard, je me réveillais dans mon lit tout habillée. Le chant d'un oiseau s'éleva et me sortit définitivement du sommeil. J'avais mal au crâne, j'étais encore affolée et confus. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux et m'éblouissait.
J'essayais de me lever, j'étirais chacun de mes membres, et c'est alors que j'aperçus un brin de paille coincé dans le dos de mon sweat, sous ma capuche. En regardant par la fenêtre, j'aperçus la grange. Cela me rappela vaguement ce qui s'était passé dans la nuit. Mon mal de crâne s'amplifia, des flashs me revinrent, le corps suspendu dans le vide, la capuche, les reflets sur la lame de couteau. L'angoisse me tordit le ventre.
J'essayais de me raisonner. Ce devait être un cauchemar. Parfois, atteint de somnambulisme, il m'arrivait de quitter mon lit. J'avais dû aller jusqu'à la grange, perturbé par l'horrible histoire que mon grand-père m'avait racontée. Quand même, j'avais marché jusqu'à là-bas et m'étais fourré dans la paille. Cela me semblait fou.
Je descendis à la cuisine pour prendre mon petit déjeuner en compagnie de mon grand-père. Il m'accueillit, sourire aux lèvres.
Dis donc, qu'est-ce que tu faisais dehors hier soir ?
Je fais parfois du somnambulisme.
Ah bon ? Je ne savais pas. En même temps, tes parents ne t'ont pas souvent emmené chez moi. Je ne suis pas en très bon terme avec eux.
En tout cas, tes croissants sont très bons.
D'ailleurs, tu t'es lavé les mains avant de prendre ton petit déjeuner ?
Attends, oui, j'y vais.
Je retroussai mes manches au-dessus de l'évier et je découvris avec stupeur la cicatrice laissée par l'arme de la créature de la nuit. Raphaël,
Léon,
Robinson,
Naël,
David.
Les Satranes.
Eve avait 28 ans. Cela faisait 7 ans qu'elle était dans la police de Détroit. Elle faisait des patrouilles dans les banlieues. C'était un soir où le soleil vespéral reflétait une lumière orangée. Plus il se fondait dans le ciel, plus l'ambiance devenait calme. Un calme seulement interrompu par des bruits d'animaux. Des oiseaux, des aboiements, et des hommes alcoolisés qui fêtaient encore le nouvel an 2017, 7 jours après le 1er janvier.
Eve aperçut 7 hommes alcoolisés, assis sur le sol. Elle décida donc de sortir de son Ford Ranger et questionna les 7 hommes, la main sur le holster, parce qu'elle n'était pas très rassurée.
Bonjour, que faites-vous donc dans cet état ? Vous ferez mieux de rentrer chez vous.
Qu'est-ce que tu vas faire ? T'es une femme, tu n'arriveras même pas à nous tirer dessus.
C'est ce que vous pensez ? Mais j'ai une balle dans mon chargeur pour chacun d'entre vous.
Va plutôt tirer sur les 7 crânes qu'on a vus tout à l'heure. Peut-être que tu réussiras au moins à toucher un, vu qu'il ne bouge pas.
Le groupe riait en regardant Eve partir.
Après cette altercation désagréable, Eve décida de rentrer tranquillement au commissariat, en empruntant les petites rues de Détroit.
«
Bien qu'elle ne fût pas rassurée de prendre ces rues étroites enfumées par un étrange brouillard sépulcral, elle essayait de garder son calme. Mais elle fut inquiétée en entendant des chants qui semblaient être des chants religieux, avec une tonalité d'opéra. Elle se dit tout haut, comme pour tester ses capacités auditives, et se prouver qu'elle ne rêvait pas.
Ils sont en retard sur les chants de Noël.
L'atmosphère de la rue devenait étouffante. Les poubelles se renversaient à cause du vent. Elle se rapprochait des chants qui provenaient du bout de la rue. D'un coup, les chants s'arrêtèrent et un cri court mais strident retentit.
Eve activa son frein à main et sortit de son véhicule. Elle alluma sa lampe torche et s'arrêta net. Les visages décomposés, on voyait sept crânes qui flottaient à 2 mètres de hauteur dans le ciel. Ils semblaient suspendus dans le vide.
Cette fois-ci, à cause du stress, elle dégaina son Glock 17 et tira une balle sur chacun des crânes et vida son chargeur. Eve ne rata aucun crâne et fut même impressionnée de son étonnante précision, car elle tremblait énormément. Les crânes tombèrent, tous en même temps, et répandirent une lumière éblouissante dans leur chute. Eve était tétanisée et décida de remonter dans sa voiture. Elle alluma le moteur et rentra au poste de police. Elle arriva au poste, la respiration lourde.
Chef !
Hallucination ? Les vapeurs d'alcool sont très puissantes dans ce quartier. Tu es la 7e recrue à revenir dans cet état. Mais j'ai une question. Est-ce que toi aussi tu as vu 7 crânes dans le ciel ou quelque chose comme ça ?
Oui, comment savez-vous ?
Les policiers victimes de ces mêmes hallucinations m'ont dit qu'ils avaient vu 7 crânes qui chantaient en flottant dans les airs.
C'est exactement ça.
C'est bizarre. Mais à mon avis, ce ne sont que des hallucinations.
Ouais.
Bon, un petit café ? Peut-être que ça te remettra les idées au clair.
Attendez, je veux savoir ce que signifient ces 7 crânes.
Écoute, j'en sais rien. Ou alors attends, ça me rappelle vaguement quelque chose. C'était en 1981, une recrue comme toi avait fait une bavure en tuant 7 personnes ivres qui tenaient des propos sexistes envers elle.
Moi, j'ai juste tiré 7 balles en l'air.
D'accord, mais alors pourquoi aucun voisin n'a été alerté par tes coups de feu ? C'est ton esprit qui te joue des tours ? Avec les fêtes de fin d'année, on multiplie les patrouilles. Le rythme est trop tendu. C'est quand ton prochain jour de repos ?
Demain.
Bien. Tu vas en profiter pour dormir un peu. Je t'apporte un café pour tenir jusqu'à la fin de ton service.
Eve avait l'esprit embrumé. Elle était un peu perdue et morte de fatigue. Alors que son chef se dirigeait vers la machine à café, elle contrôla son arme de service et à sa plus grande surprise, il n'y avait plus aucune balle dans le chargeur.
Tala,
Émilie,
Gabriel,
Hermela,
Irène,
Yanis.
Angela. Dans une petite ville près des côtes, dans le sud de la France, vivait une fille rousse du nom d'Angela. Angela était une fille très réservée et timide. Elle était harcelée tous les jours par un groupe de filles de son collège car elle n'avait pas de parents. Sa mère était morte à sa naissance et son père, peu de temps après, dans des circonstances assez obscures. Elle avait donc été élevée par sa tante, une femme détestable. Mais on peut dire que ça, c'était le dernier des soucis d'Angela. En effet, au collège, Angela était principalement malmenée par une fille. Cette fille, c'est moi, Chloé. Un jour, comme tous les jours, je suis allée embêter Angela pour m'amuser. Mais ce jour-là, Angela a eu le courage de se défendre. Elle m'a poussée et je suis tombée par terre. Tout le monde a vu la scène. J'étais enragée à l'idée de m'être faite humiliée par cette idiote. Le soir,
en rentrant chez moi, j'ai eu une idée que je regrette encore aujourd'hui. En arrivant au collège, le jour suivant, Angela était insultée, moquée, humiliée par tout le monde. Le principal l'avait convoquée dans son bureau avec sa tante pour qu'elle parle de toutes les rumeurs et images qui circulaient sur elle depuis la veille au soir. Évidemment, ces rumeurs, j'en étais à l'origine. Et j'étais bien contente de leur effet. Je me sentais vengée. J'étais contente de moi. Personne n'avait idée des conséquences que cela avait causées dans la vie d'Angela. Elle était en détresse et ne pouvait compter sur le soutien de personne. Ça m'avait fait un peu de peine, bien sûr, mais j'étais complètement aveuglée par mon ego et mon influence grandissante sur le groupe.
Évidemment, tous les élèves étaient retournés en cours, le cœur léger, indifférent à la souffrance d'Angela. Et était rapidement passé à autre chose. En sortant de cours, ce jour-là, j'ai rejoint mon petit ami dans notre endroit secret. Mais en arrivant, je fus saisi de stupeur en découvrant le cadavre glacial d'Angela allongé par terre, les yeux encore pleins de larmes, me fixant comme si son âme refusait de s'en aller. J'étais figé. Que fallait-il faire? Le cacher? Passer mon chemin? Appelé à l'aide, comme une lâche, je me suis enfui. Quand son corps a été retrouvé, les professeurs ont appelé les secours. En voyant son corps se faire évacuer, j'ai eu cette impression étrange qu'elle m'observait toujours. Le lendemain, on a fait une minute de silence pour lui rendre hommage. Je ne prenais pas encore la mesure de ma responsabilité dans cette histoire. Ça fait 20 ans maintenant, je suis marié aujourd'hui, j'ai un fils de 11 ans qui termine son CM2. Parfois, je repense à cette histoire, mais j'essaye de laisser tout ça derrière moi. Hier, quand j'ai découvert le collège secteur de mon fils, mon visage s'est figé. Comment c'était possible? Je pensais qu'avec notre adresse, il n'aurait pas allé dans le même collège que moi. Les mauvais souvenirs me revenaient. J'ai essayé de me raisonner et ne lui ai rien raconté pour qu'il fasse sa rentrée sereinement.
Le jour J, j'étais dans un état d'angoisse totale, mais j'ai essayé de ne pas le montrer. J'ai passé la journée à penser à lui et j'ai décidé d'aller le chercher après sa première journée de cours. J'ai pris ma voiture, je me suis rendu devant mon ancien collège. Sur la route, il faisait très beau. Mais quand j'ai atteint la rue du collège, le ciel est devenu gris. Le soleil a disparu et il s'est mis à pleuvoir d'un coup. Quand je suis arrivée, j'ai été surprise de voir qu'il n'y avait plus aucun bâtiment autour du collège. Il était isolé et triste, pas comme dans mon souvenir. Ne voyant aucun élève sortir de cours, j'ai décidé de rentrer. Tout était désert. Aucune trace de vie. J'étais affolée et je ne comprenais pas. Mon cœur battait de plus en plus fort. Je courais dans le couloir vide à la recherche de mon fils.
J'ai ouvert une salle au hasard. Là, il y avait mon fils. Mais trônant le dos, je m'approchais de lui.
Jay,
maman, aide-moi.
Qu'est-ce qu'il y a?
Je me suis précipité vers lui, mais à peine Avez tendit la main vers son épaule que son corps s'était évaporé.
Jay!
Plus j'attendais cette voix, plus je me sentais comme envoûté, comme si elle allait me dire de la suivre et que je ne pourrais pas résister. Sans même me rendre compte, je me retrouvais dans la cour de récréation avec tous mes anciens camarades. Mais je savais que ce n'était pas eux. Ils avaient leurs yeux remplis de larmes et répétaient sans cesse mon nom. J'étais paralysé en pouvant lire l'affolement dans mes yeux.
Tout à coup, les visages larmoyants de mes anciens camarades se sont mis à exploser devant moi. Et puis, le silence. Je ne comprenais plus rien. J'étais prise de vertige. J'ai eu juste le temps de me sentir mes jambes fléchir et mon crâne heurter le sol. Quand j'ai repris connaissance, j'étais à l'endroit où on avait retrouvé le cadavre d'Angela. Mon fils était allongé par terre, au milieu d'un pentagramme entouré de bougies et de jeunes collégiens en uniforme, et moi j'étais ligoté.
Chloé, ça fait longtemps.
Oh, Angela, comment?
Comment je suis en vie? Ah non, je suis bel et bien morte, mais plus pour longtemps.
J'ai préparé ce moment depuis des années.
Angela, je ne sais pas ce que tu as derrière la tête, mais je voulais te demander pardon.
Tu ne trouves pas que c'est un peu tard pour me demander pardon?
Cette histoire est entre toi et moi. Laisse mon fils en dehors de ça, je t'en supplie.
Ah, mais je ne peux pas, ma chère. J'ai besoin de lui pour retourner dans le monde des mortels.
Quoi? Non, c'est impossible. Qu'est-ce que tu racontes?
Ce n'est que le début de tes cauchemars, Chloé. Une vie pour une vie.
Tu es folle.
Un dernier mot pour ton fils.
Angela, ne fais pas ça, non, s'il te plaît. On était collégienne, on ne se rendait pas compte.
J'ai essayé de me débattre pour retirer les liens qui me maintenaient immobile. Et pour sauver mon fils, mais je n'avais plus de force et perdais à nouveau connaissance.
En me réveillant en sursaut, j'étais en sueur. Je regardais mon téléphone, il était 16h. Mon fils allait sortir de cours d'ici une demi-heure. J'ai foncé dans la voiture, encore perturbé par ce cauchemar horrible. Et rouler trop vite pour être à l'heure à la sortie du collège. Les élèves commençaient à sortir, je me garais rapidement et guettais mon fils. Après quelques minutes, je le distinguais enfin au milieu des autres. Il avait l'air content, je ressentis un grand soulagement. Il discutait avec une fille de son âge, probablement de sa classe. Elle avait les cheveux roux. Quand mon fils m'aperçut, il lui fit un signe de la main pour lui dire au revoir. Elle lui répondit et me fixa à travers la vitre de la voiture avec un sourire étrange. Mon fils ouvrit la porte et s'installa sur le siège passager. Je lui tendis un pain au chocolat.
Alors, comment s'est passée cette première journée?
C'était super, le prof principal est sympa et je me suis déjà fait une copine.
Ah oui, comment s'appelle-t-elle?
Angela.
Maya.
Émile.
Walid.
Alilou.
Abdelhamid.
Chris.
Des courses pas comme les autres. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée en 2014, il y a 11 ans, à Sado, une petite île du Japon. J'y étais allée pour y poursuivre mes études car je souhaitais écrire mon propre manga que j'avais déjà commencé. L'histoire se passait dans un monde où la terre devenait hantée. Les dessins de ce dernier avaient besoin d'amélioration. Moi, je m'appelle Malotru. J'avais 19 ans à l'époque et j'habitais dans un petit appartement au 4e étage dans le centre-ville. Une fin d'après-midi, alors que je perfectionnais mes dessins, j'eus un petit creux mais le réfrigérateur était vide. Je devais aller au supermarché mais il était déjà 19h30. Je me dirigeais vers une supérette ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au bout de la ville. Il fallait que je prenne ma voiture.
Sur le chemin, tous les lampadaires se mirent à clignoter. Je vis une étrange personne dans la rue. Elle ressemblait bizarrement au personnage principal de mon manga. Les mêmes yeux rouges, le même nez pointu, les mêmes cheveux bruns, les mêmes vêtements clairs. Il se dirigeait dans la même direction que moi. Je m'arrêtai pour le regarder, puis il me dit soudain
« Vous aussi vous allez à la supérette au bout de la ville? C'est embêtant que le supermarché du centre ferme aussitôt. »
« Oui, voulez-vous que je vous y amène ?»
Non merci, ça va aller.
Au revoir.
J'étais troublée, mais je pensais sur le coup que c'était juste une coïncidence. 3 minutes plus tard, j'arrivais à la supérette. Il était déjà 20h.
En rentrant, je vis le même homme que tout à l'heure au rayon des fruits et légumes. Il était arrivé avant moi. Interpellé, j'avançais dans l'allée centrale. À peine avais-je commencé à faire mes courses que les lumières s'éteignirent. Au même moment, une fumée noire m'enveloppa. Il n'y avait plus personne, le supermarché était vide, il n'y avait aucun bruit. Je regardais autour de moi et je vis que j'avais changé de rayon. Pourtant, je ne me rappelais pas avoir bougé. J'entendis des bruits étranges provenant du frigo.
Je regardais à l'intérieur. Une bouteille de lait était en train de se vider toute seule. Alors que je m'avançais, je vis la même bouteille de lait sur une étagère dans le rayon des gâteaux. Tout à coup, j'aperçus deux points rouges dans le noir. Puis, l'homme de tout à l'heure apparut à mes côtés.
J'étais tétanisée. Je n'arrivais plus à bouger et je perdais tous mes repères. Comment cet homme me rejoignait-il aussi rapidement partout où j'allais ? Je pris mon courage à deux mains, puis je commençais à lui parler. Il ne me répondait pas. Lui aussi, il paraissait effrayé. Subitement, il se mit à courir vers moi. Il m'était passé à travers. Traumatisée, je m'évanouis immédiatement.
En me réveillant, j'étais dans une petite salle qui ressemblait étrangement à ma chambre en France. Mais quand j'ouvris la porte, je me trouvais dans la supérette. J'étais confus. Je ne comprenais absolument rien de ce qui était en train de se passer. Les lumières étaient de nouveau allumées et les personnes avant l'incident étaient présentes, à l'exception de l'homme aux yeux rouges. Cela ressemblait au début de mon manga. Tout à coup, j'entendis une annonce passer dans les haut-parleurs de la supérette.
Ceci était une alerte à gaz suspect. Toute l'équipe espère qu'il n'y a eu aucun blessé.
Sur le coup, je pensais que le bruit à la fin du message était juste un bug du micro. Pour vérifier cette hypothèse, j'allais au rayon des gâteaux. La bouteille n'y était plus. Était-ce une hallucination ou alors mon manga avait déteint sur la vraie vie ?
En réalité, je n'avais, et c'est toujours le cas, aucune idée de la réponse à ma question. Derrière moi, j'entendis très distinctement un nouveau... Je me retournais vivement. Il n'y avait personne, hormis deux points rouges qui me fixaient tout au bout de l'allée.
Anton,
Emma,
Sherazade,
Heidi,
Phileas,